Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, au micro de Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois, nous sommes en compagnie du père Ephrem Azar, dominicain irakien, de culture syriaque. Vous vivez entre la France et la plaine de Ninive, entre deux rives, selon la formule de votre association, entre la Seine et le Tigre qui traverse les plaines meurtries de Haute-Mésopotamie. Bonjour Père.
Bonjour Sébastien.
Alors vous êtes ce matin avec nous pour deux sujets. Le premier, c'est un livre qui vient de sortir, Les Anaphores syriaques, au Serre, dans la collection Patrimoine. Et le second sujet, c'est votre association Entre deux rives, dont nous parlerons en seconde partie d'émission. Un sujet qui vous tient à cœur, de recréer, de renouer ce lien entre communauté et confession différentes dans l'actuel nord de l'Irak. Les anaphores syriaques. Accordez-nous une pensée droite et un cœur reconnaissant pour te gratifier et ne pas oublier tes dons. Saint Ephrem, 4e siècle. Ce qui différencie la prière eucharistique syriaque de celle du rite latin est l'invocation, écrivez-vous, du Saint-Esprit après la consécration.
Oui, j'ai écrit ce livre-là. En fait, c'est une traduction de plusieurs anaphores, les plus connues aujourd'hui, dans le but non pas de faire une édition critique sur les textes ou les manuscrits, mais simplement initier nos amis occidentaux sur ce patrimoine, sur la mystique orientale de ces églises. Mais surtout, mon but était aussi de dire que ces anaphores, ces prières eucharistiques sont partagées par toutes les églises orientales d'aujourd'hui, que ce soit catholique, orthodoxe, que ce soit arménienne, syriaque catholique, syriaque orthodoxe, maronite et copte aussi. Donc c'était dans ce but-là. Et surtout, deuxièmement, je voulais montrer aux occidentaux chrétiens que notre liturgie, ces prières eucharistiques ont une différence essentiel, c'est justement l'invocation du Saint-Esprit, ce que nous appelons l'épiclèse. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire ce que nous disons, les paroles du Christ, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Pour nous, les orientaux, il n'y a pas de transsubstantiation dans le sens « Ce pain-là n'est pas encore le corps du Christ et le vin n'est pas encore le sang du Christ ». Avec l'épiclèse, on va invoquer le Saint-Esprit. Et il y a même les formules, vous voyez, pour montrer, confirmer, attester que ce pain est le corps du Christ, que ce vin est le sang du Christ. Vous voyez, dans toutes ces anaphores-là, ces mêmes mots-là, où donc le célébrant va s'agenouiller, vous voyez, ainsi s'est imposé, c'est le Saint-Esprit, qu'il fasse ce pain le corps du Christ. Amen. Corps vivifiant, corps qui sauve, etc. Et la même chose pour le vin, et que se mélange dans cette coupe, qu'il en fasse le sang du Christ, sang qui purifie nos âmes et nos corps, sang du Seigneur, etc. C'est fondamental ça. Ça veut dire, nous revenons à notre particularité dans ces églises orientales sur le rôle de l'Esprit Saint.
Alors pour vous, c'est une différence fondamentale sur le rite latin, par exemple.
Oui, bien sûr.
En quoi ?
Par exemple, là, vous avez la liturgie de Saint Basile. C'est le plus connu, à mon avis, là où il dit justement le Magnificat de l'Esprit. Comme le soleil brille sur les corps sans être amoindri par la part de la lumière qu'ils reçoivent de mille façons, l'Esprit procure à tous sa grâce sans être diminué ni divisé. Il libère les enchaînés, il adopte les enfants déshérités. Et un persécuteur se repent, il en fait l'apôtre. Les héros de la foi, l'instrument qu'il s'est choisi, etc. Donc, les faibles, il les fait forts. Et c'est ça qui montre que le travail de l'Esprit est fondamental dans l'Église orientale. Bien sûr, ça a amené, vous savez, avec le problème de Filioque, dans le 11e siècle, avec cette crise entre l'Église byzantine et l'Église latine.
Alors, ces prières sont communes à toutes les églises syriaques et puisent leur source à Jacques, frère
Alors,
du
il
Seigneur.
J'ai choisi 10 parce que les plus connus. D'abord, Jacques, le frère du Seigneur, est selon les orthodoxes, frère de Dieu même. Ensuite, Saint Jean, l'évangéliste, Ensuite, les 12 apôtres, c'est Luc. Ensuite, Saint Marc, et puis ensuite, Saint Eustache, Saint Basile, Saint Cyrille de Jérusalem, Saint Jean Chrysostome et Jacques de Sarouk, évêque de Batnane. Le plus récent parmi ces anaphores, c'est celui de Jacques de Sarouk, évêque de Batnane. C'est plutôt les Syriaques orthodoxes, c'est le plus grand docteur de l'Église orientale, vous savez, le 5e siècle, celui-là.
Là, nous sommes au 5e siècle, oui.
Mais les autres, c'est toujours soit du 2e, 3e, 4e siècle. Donc avec Jean Chrysostome, l'Église orthodoxe le vénère, aussi ainsi que les catholiques, et surtout la liturgie de Saint Basile, qui est appelée la liturgie de Saint Basile, qui est vénéré par tous, y compris par les Arméniens aussi. Donc, vous voyez toutes les traditions orientales d'Arménie jusqu'à l'Égypte, ces églises le partagent aujourd'hui et le prient ensemble, dans la même structure.
Comment vous avez travaillé, Père Hazard, pour mettre toutes ces prières ensemble?
Alors, c'est entre mes patients, entre deux patients, parfois, c'est une récréation. Aussi, il faut dire, et j'ajouterai, que ce patrimoine peut disparaître, vous savez. Et donc, il ne faut pas le laisser seulement dans les églises orientales, il faut vraiment faire cette initiation à nos amis occidentaux de rite latin pour qu'ils connaissent une autre richesse, une autre manière de célébrer la messe.
De ta table spirituelle, Seigneur, nous t'avons enseveli en nous. Fais-nous voir notre beauté grâce à ta beauté spirituelle, dit Isaac de Qatar.
Isaac de Qatar, il faut dire, évêque de Ninive. Vous voyez, donc, ça nous ramène aussi...
Septième siècle,
ça nous ramène bien avant aussi, début de l'islam, que toute l'Arabie et les pays du Golfe étaient chrétiens, et vous voyez, déjà, c'est mystique, c'est extraordinaire. Et il donne cette symbolique, comment en mangeant donc le corps du Christ, nous l'enfouissons dans notre cœur. Et c'est comme si le fait de le laisser dans notre cœur, il y a quelque chose qui va émaner de nous et qui va nous transformer.
Est-ce que cette mystique est comprise de nos jours?
Bien sûr, mais il faut l'expliquer. Malheureusement, là, vous me posez une vraie question. Parce que d'abord, la restauration de certaines liturgies eucharistiques dans nos églises d'aujourd'hui, il y a eu malheureusement, on a coupé. Parce que c'était très long et on a un peu défiguré. Et c'est pour ça que je mets ça comme un patrimoine, pas seulement respecté comme lettre morte, mais de revenir à l'essentiel. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, dans l'administration du baptême dans nos églises, la plupart des églises orientales et bien sûr occidentales, on va vous mettre quelques gouttes d'eau sur votre front. Mais ça n'a pas de sens, c'est l'immersion. Pourquoi l'immersion? D'abord, le mot baptême, baptiser, ça veut dire immerger, immersion. Lorsque l'enfant est dans cette eau-là, presque jusqu'à l'étouffement, il va reprendre son souffle. C'est ça l'engendrement, la restauration de son être. C'est là où il y a quelque chose qui va devenir pour lui ce fils de Dieu, vous voyez. Malheureusement, on a oublié ça. Ainsi, si je prends pour la célébration eucharistique, vous voyez la fraction du pain, c'est déjà quand le prêtre au milieu de la messe après l'épiclèse, il va mélanger un petit bout de cette hostie dans le sang du Christ. Et ça me rappelle Charbel du Liban, Saint Charbel, qui au moment où il a, dans cette célébration, il est mort. C'est-à-dire, c'est une partie très importante. Dans mon enfance, les parties, d'abord la procession des Écritures, et surtout, vous avez ce qu'on appelle l'élévation. Je me rappelle toutes nos mamans qui avaient le châle sur leur tête, ils couvraient leur visage, et les hommes avec leur coiffe orientale, irakienne, chrétienne, ils enlevaient tout, et c'était l'élévation, ça veut dire... Le corps et le sang du Christ qui est présenté à toute la foule.
Je suis ce matin avec le père Ephrem Hazard pour les anaphores syriaques et nous venons d'écouter un chant qui nous vient de l'église syriaque catholique, père.
Il est chanté par l'archevêque actuel de Mossoul, donc syriaque catholique, avec sa belle voix, et c'est l'hymne de Saint Ephrem que nous disons dans, au milieu de la messe, fraction du pain et du vin. L'agneau pascal, c'est, voilà les mots, l'agneau pascal est tué, immolé en Égypte, et le vrai agneau est immolé à Sion, c'est à Jérusalem. Regardons les deux, s'ils se ressemblent ou ils sont différents, ou ils sont étrangers l'un à l'autre. C'est Saint Ephrem, il faisait toujours le parallèle entre le passé et ce qui est d'actualité dans la célébration.
Alors vous me faites une transition parfaite, parlons un petit peu du présent justement. Cette association Entre deux Rives qui vient en aide aux réfugiés d'Irak et vous voulez et vous cherchez depuis plusieurs années à favoriser le dialogue interculturel entre les différentes minorités qui cohabitent, qui cohabitaient ensemble, chrétiens, musulmans et yazidis. Vous avez le projet d'une bibliothèque interculturelle.
Oui. Alors, le dialogue aujourd'hui, il est interrompu. Ça, il faut que je le signale tout haut. Actuellement, depuis Daesh, ce dialogue est cassé. J'ai osé moi-même, en septembre, aller dans ces villages musulmans autour de Karakoche. Je ne vais pas l'appeler la plaine de Nîmes, mais la plaine de Karakoche, Hawi. C'est la plaine où il y a pas mal de villages et qui était le bastion de Daesh. Et qui, eux, nous ont attaqués.
Vous êtes né à Karakoche, c'est votre ville.
Je suis né à Karakoche. Demain, je pars de nouveau en Irak, et c'est pour l'université de Karakoche. Il y a 2700 étudiants, 2000 musulmans, et 700 seulement chrétiens. Et cette université n'a pas d'équipement, et nous avons un budget de 70 000 euros pour le racheter d'abord pour le département physique, un laboratoire et en même temps pour chaque département les photocopieuses et les ordinateurs. Et surtout, comme le dialogue est interrompu aujourd'hui, je suis en lien avec l'évêché de Cologne et je vais, avec l'aide que j'aurai, et en même temps je passe au Liban demain même, avec les maisons d'édition des paulistes et des jésuites pour acheter les livres, parce que nous n'avons plus rien, tout a été brûlé. J'estime d'abord, il y a quelque chose d'essentiel avant de restaurer nos églises, avant de restaurer nos maisons, c'est qu'il faut restaurer ce qui est cassé dans la culture et dans ce dialogue interculturel. C'est pourquoi, vraiment, depuis le début, la création de mon association, elle cible là-dessus. D'abord, on va vers ces minorités. Et à ce moment-là, vous avez vu dès le début, moi je suis allé chez les yézidis. J'ai aidé déjà 101 femmes libérées de Daesh et avec beaucoup d'orphelins, car je visite chaque fois tous les camps des réfugiés yézidis aussi. Mais sur la plaine de Ninive, parce que Daesh a reculé militairement, mais l'esprit de Daesh est plus pervers aujourd'hui dans cet endroit, dans la plaine de Ninive notamment.
À quel point de vue ?
Sur le plan d'abord à l'université, dans les écoles. Vous imaginez aujourd'hui dans le programme scolaire des écoles primaires, c'est écrit, je le lis en arabe parce que c'est important qu'on l'entende pas sûrement. « Hijabi farida wa inni sahiha wa ghayri marida » Ça veut dire « mon voile que je porte est une obligation pour moi, un devoir, et je suis dans la vérité, et l'autre, il est malade, ou elle est malade. » Ensuite, lorsque dans le programme même de l'école primaire, la première classe, la première année, on va citer le premier sourate, le premier verset du Coran qu'on appelle l'ouverture. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdoulilah. D'ailleurs, que je prie moi chaque jour ce verset. À la fin, justement, il est dit dans ce verset, donc, chemin de ceux que tu as touchés de ta grâce et non de ceux qui sont égarés. Ça veut dire, dans ce programme, nous sommes les égarés. Les chrétiens, les yézidis, les mandéens, tous ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, je ne pense pas que Dieu, dans ce verset où il est question aussi quant à ceux de ta colère, mais Dieu ne se met jamais en colère contre un être humain. Jamais. Aucune religion ne peut pas dire que Dieu se met en colère contre quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas musulman. C'est pas possible, ça. Or, c'est dans le programme, aujourd'hui. Donc, le problème, aujourd'hui, de l'Irak, il est sur plusieurs plans. D'abord, chez les chrétiens. Je commence par les chrétiens. D'abord, nous sommes une petite minorité maintenant. Moi, j'estime à 200 000, 220 000, pas plus en Irak.
Est-ce qu'il y a eu des retours à Karakoch, justement?
Il y a une quinzaine de familles. Mais en fait, quand j'ai fait une analyse de ces familles, leur départ d'Irak n'était pas bien préparé. Ils se sont trouvés, surtout les aînés, les parents. Ils ne savent pas la langue. Le français, c'est très difficile. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, ils se sentent enfermés parce qu'ils ne parlent pas. Moi, je vais régulièrement à Marseille et j'ai vu certaines familles de Karakoch même qui me disent, lorsque le soir arrive, nous avons les larmes dans les yeux. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Il y a un petit retour, parce que aussi, pour ceux qui sont en Jordanie ou au Liban, et même avant en Syrie, ils dépensent beaucoup d'argent en attendant leur visa vers l'Occident, vers l'Amérique ou l'Australie. Donc, le premier problème, je dirais, il est chez les chrétiens, à savoir, il n'y a pas une vision commune entre dans la hiérarchie locale irakienne. Deuxièmement, les grands partis politiques irakiens, notamment musulmans, sunnites et chiites, ont absorbé, ont englouti les petits partis chrétiens et autres. Donc nous n'avons pas de présence, même dans le Parlement, très peu. Récemment, il y a eu une réunion assez importante des différents partis, les plus grands partis politiques, dans le Palais de la Paix à Bagdad, mais les autres partis minoritaires sont exclus de cette réunion. Voilà le premier point. Deuxièmement, la constitution irakienne, il faut la réviser. Si je dis cette phrase même, il faut la réviser, elle vient de la bouche même de l'ancien président irakien Fouad Massoum, où il a dit, nous avons précipité, nous étions trop rapides en faisant la constitution à l'arrivée des Américains, et elle n'est pas juste. Donc il faut la réviser parce que il y a plusieurs articles dans la Constitution qui sont contre les minorités, contre les chrétiens et les autres minorités. C'est pas possible. Donc, la révision est urgente parce que nous sommes, il faut d'abord appeler à être de citoyens simplement. Et aussi, le terme minoritaire ne nous rend pas service, vous voyez. Et donc, ça, à mon avis, c'est ça qui permet. Quatrième problème, c'est celui de l'infrastructure. Ça veut dire, lorsqu'il y a eu le retour, il y a plus que deux ans, vers nos villes, nous sommes rentrés et grâce aux ONG et associations chrétiens, occidentaux, protestants et autres, qui ont restauré nos maisons et nos églises, mais dans le quotidien, il manque tout. L'État irakien n'a donné même pas un sou et est incapable de réparer tout ce qui a été cassé, notamment dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture. Vous imaginez, dans nos souks, le marché, à Erbil, Karakoch, vous ne voyez que la marchandise iranienne et turque. Aujourd'hui, l'Irak, politiquement, n'existe pas. C'est une colonie iranienne. Au temps des Abbasides, il y avait l'influence iranienne, bien sûr, mais l'Irak avait son autonomie. Aujourd'hui, l'Irak, politiquement, c'est un champ dans lequel il y aura cette tension entre les Américains, les Iraniens et les Saoudiens.
Alors nous avions reçu précédemment dans une émission des représentants de l'association Fraternité en Irak, par exemple, que vous connaissez très bien. Et il y avait justement ce désir et cette volonté d'aider avant la reconstruction, que les gens trouvent du travail. C'est important, le boulanger.
40% des jeunes aujourd'hui qui terminent l'université n'ont pas de boulot. Les Kurdes ne veulent pas de nous parce que nous ne parlons pas kurde. Et Bagdad ne veut pas de nous, ni Mossoul. Et vous imaginez quand un étudiant maintenant, je vous parle d'une expérience de ces jours-ci avec mes neveux et nièces, mais il me dit pourquoi je vais étudier, regarde ma sœur aînée, ça fait 4 ans, elle a terminé l'université et elle est au chômage. Et il dit la situation est asphyxiante, c'est-à-dire il n'y a pas de perspective d'avenir. Et c'est là aussi peut-être dans mon travail de thérapeute aussi, j'ai l'intention peut-être de changer le siège de mon association d'Erbil à Caracoche, probablement dans ce but-là.
Alors s'il y a des jeunes qui nous écoutent, des gens de votre communauté ou même d'autres communautés, cette grande communauté des chrétiens d'Orient, quel message auriez-vous à leur donner pour
Le message, vous savez, moi d'abord toujours, je n'ai aidé personne à quitter l'Irak, ni aucun membre de ma famille, ni de mes amis. D'abord, nous restons. L'Irak, je l'ai dit dans la précédente émission, l'islam ne peut pas survivre sans les chrétiens. L'islam a besoin de messages de l'évangile, que ce soit en France, que ce soit dans nos pays. Et nous sommes là parce que cet élément chrétien, c'est lui qui va nous dire que nous ne pouvons exister dans la vie que dans l'altérité. Et deuxièmement, l'islam aussi, il doit être capable de faire l'exégèse du Coran. Et malheureusement, ouais, mais bien sûr, c'est très important. Et au Moyen-Âge, on avait ça. Aujourd'hui, c'est fermé. Or, comment voulez-vous bâtir, construire, restaurer un dialogue dans cette plaine de Ninive, et en Irak et au Proche-Orient et même en France, s'il n'y a pas cette ouverture? On ne peut pas. Et c'est ça, aujourd'hui. Donc, mon message, c'est que toutes les religions, me semble-t-il, ont le message de paix, d'ouverture et surtout de ne pas rester dans l'ignorance.
Nous étions ce matin en compagnie du père Ephrem Azar pour évoquer les anaphores syriaques qui viennent de sortir aux éditions du Cerf dans la collection Patrimoine. Père Ephrem, merci beaucoup.
Je vous remercie, je suis très touché toujours d'être accueilli par vous et Sébastien.
Je remercie pour la réalisation et la technique de cette émission Delphine Baudet, Claire Poinsignan et Dany Journeau. Nous retrouvons le service protestant. Bon dimanche.